vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste sans Dieu ni maître ni publicité. Il est 10h et vous écoutez Délibéré, en deux mots, l'émission, le débat de l'actualité des luttes étudiantes et ces luttes parfois, malheureusement pour le gouvernement, rejoignent celles de la population dans son ensemble. Donc bon, bah, vous aurez compris qu'aujourd'hui, je vais vous parler de la réforme des retraites, ce projet de réforme qui arrive à mettre environ 70% des Français dans la rue, en tout cas, qui soutiennent le mouvement qui se masse aujourd'hui dans la rue. Nous ne pouvions pas éviter de sujet, évidemment, parce que même en tant qu'étudiante, nous sommes sensibles à toutes ces luttes qui prennent la société, qui imprègnent la société en ce moment. Et à quelques semaines à peine de ce qui semble bien s'annoncer comme une grève générale et reconductible, nous allons donc aborder ce thème, mais de notre point de vue, celui des étudiantes que nous sommes. Donc, à la technique, bien sûr, je voudrais remercier Alix, toujours là, fidèle au poste, merci de nous épauler. Et je voudrais aussi vous dire que nous accueillons une nouvelle comparse qui nous a déjà fait l'honneur de venir sur l'émission, mais cette fois-ci en tant qu'invitée. Donc, elle nous avait parlé en novembre dernier de son court-métrage « Biodiversité ». En trois mots, parce qu'elle aussi, elle aime bien les calembours, donc tout de suite, voilà, ça a bien marché. C'est un documentaire qui, on va dire, traite de l'histoire des jardins d'Aubervilliers sous un angle peut-être un peu documentaire, on peut dire ça comme ça. Et donc, je vous présente donc Claire. Comment vas-tu?
Mais
contente
bien.
D'être avec nous?
Très, oui.
Contente de revenir?
Oui, pour cette première en tant que chroniqueuse cette fois.
Et oui, et d'ailleurs, je pense que tu vas rester sur ta marotte, le cinéma, puisque tu vas nous faire une petite chronique cinématographique sur la représentation du travail ouvrier. Et voilà, bah écoute.
C'est ça, oui, faire les liens entre travail ouvrier au cinéma.
On est impatient et impatiente d'entendre ce que tu as à nous dire sur la représentation donc, de ce travail au cinéma, parce qu'effectivement, cette réforme des retraites, elle nous met face à la question de la pénibilité au travail. Pour nous, étudiantes qui sommes, on va dire, entre les études et le travail, c'est vrai que nous n'avons peut-être pas encore conscience assez de ce que peut être cette pénibilité. Et je pense que voilà, c'est ton témoignage par rapport à cette problématique nous sera fort utile. Évidemment, nous devrions accueillir une autre camarade, Mariam, qui incessamment sous peu arrivera dans le studio et qui nous parlera d'une lecture qu'elle a faite. Mais ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Elle est vraiment pas loin, donc nous allons pouvoir avoir son conseil lecture, on va dire. Quant à moi, je vais revenir tout simplement sur l'état de la mobilisation étudiante, puisque on assiste quand même à effectivement une mobilisation plutôt massive du côté des étudiants. Mais cette mobilisation, elle ne se limite pas à la réforme des retraites. C'est-à-dire que cette réforme, ça a été la goutte d'eau, l'embrasement qui a permis à beaucoup de discours et de revendications de se faire entendre. Et je vais revenir un petit peu sur cette contestation globale. Maintenant que je vous ai annoncé le petit programme, je vais revenir très brièvement sur la réforme. Évidemment, sur Radio Libertaire, je crois que bon nombre d'émissions ont déjà fort bien démonté les arguments avancés par le gouvernement pour nous faire passer les mesures qu'il a prévues, dont le report de l'âge légal à 64 ans. Mais c'est vrai qu'on entend surtout parler du point de vue des seniors, ce qui est tout à fait normal, puisque ce sont elles et eux les premiers et premières à malheureusement souffrir de cette mesure de report de l'âge légal à 64 ans, sachant que pour les personnes dont les métiers sont les plus pénibles, ça représente vraiment 2 années de vie volée, on peut le dire très clairement, et pour nous, évidemment, ne sont pas acceptables. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'au-delà de cette question, évidemment, cette empathie que nous pourrions avoir envers les générations les plus âgées, c'est que le fait de repousser l'âge légal, ça a forcément un impact sur l'emploi des plus jeunes. C'est-à-dire qu'un senior qui part 2 ans plus tard, bon, bah, c'est un jeune qui attend 2 ans de plus pour trouver un boulot. Et ça, ça nous concerne en premier lieu. Alors évidemment, on pourrait me dire, bon, il y a des chiffres, il y a plein d'emplois vacants. C'est un peu la marotte du gouvernement, ça. Il y a tellement d'emplois vacants que tous les chômeurs n'auraient qu'à trouver du boulot pour si seulement ils n'étaient pas fainéants. Bon, il y a qu'à traverser la rue, tout le monde s'en souvient. Mais évidemment, ce qu'on oublie de préciser, c'est que les chiffres donc donnés par Pôle emploi de ces emplois vacants ne sont pas équivalents à des postes vacants. Parce que quand on a un emploi en CDI à 2000 euros par mois, bon, bah, c'est une chose, mais une offre d'emploi de 3 heures rémunérée quasiment au SMIC, bon, bah, est-ce que ça peut être considéré au même titre comme un emploi? Je n'en suis pas si certaine. Donc, évidemment, les auditeurs et auditrices de Radio Libertaire sont plutôt au fait de tout ça, mais je pense que nous avons intérêt, nous, en tant qu'étudiantes, à revenir sur ce flou qui est entretenu à dessein par le gouvernement pour critiquer, justement, comment on renvoie les jeunes sans cesse à leur fainéantise. Et voilà, c'est, je pense, Mariam qui en parlera le mieux, et ça tombe très bien, puisque la voici. Bonjour Mariam.
Bonjour.
Ah, attention, tu t'installes, je te laisse t'installer.
Oui.
Et bah écoute, c'est parfait, tu es là pile au bon moment, puisque j'allais te passer la main, puisque effectivement, je parlais de la responsabilité qui est, on va dire, placée sur le dos des jeunes, puisqu'on leur, enjoint de trouver un travail parmi les nombreux emplois précaires et mal rémunérés qui sont proposés sur Pôle emploi, voire des annonces frauduleuses. Mais il faudrait qu'on accepte tout ça, hein, parce que vraiment, c'est pour sauver la nation. Donc voilà, du coup, je pense que tu avais une petite chronique à nous présenter sur la responsabilité.
Oui.
Et écoute, je t'en prie, la parole est à toi.
D'accord, bonjour, j'espère que vous allez bien. Et juste avant de commencer sur la responsabilité, je vais faire un petit résumé de pourquoi il faut aller se mobiliser, et surtout en tant que jeune. Et tout le monde doit se mobiliser. Mais là, juste petit résumé des raisons pour lesquelles il faut tous être dans la rue. Comme vous le savez tous, le peuple a repris les mobilisations depuis le début de l'année maintenant pour protester contre la réforme des retraites. Petit résumé des raisons de ces mobilisations. Le gouvernement d'Emmanuel Macron veut briser le système actuel de retraite, qui est l'un des meilleurs au monde, et en imposer un autre défavorable pour tous les salariés. Ils devront travailler plus et gagner moins. Donc pourquoi toi, en tant que jeune, tu dois soutenir ces mobilisations? Parce que tu es aussi concerné que, voire plus, notre génération sera pleinement soumise au nouveau système. Les femmes seront les plus touchées par la réforme. Nous avons été trop négligents concernant les réformes de ce gouvernement, surtout concernant le lycée et le bac. Donc alors, mobilise-toi, et toutes les formes d'engagement sont nécessaires. Je n'ai pas fini, et en tant qu'étudiante qui manifeste contre cette réforme, j'ai entendu beaucoup d'absurdités. Pour répondre à nos détracteurs, quoi de mieux qu'une petite dissertation sur la responsabilité à destination des irresponsables. Donc, la responsabilité, qu'est-ce que c'est ? C'est d'être capable de répondre de ses actes. Être responsable, c'est reconnaître et accepter toute implication et conséquence de notre comportement et de nos choix à l'échelle de l'univers, c'est-à-dire à l'échelle nationale aussi, internationale. Être responsable, c'est être cohérent dans chacune de nos actions. Responsable, c'est le mot qui définit un être adulte. Cependant, dans le contexte actuel de notre société, nous pouvons distinguer différentes responsabilités. Alors, quelles sont-elles? La responsabilité envers le futur et la responsabilité collective. La responsabilité pour la génération à venir, cela concerne notre responsabilité d'assurer une vie saine sur la planète et la société, et une société juste pour eux. Qu'ils puissent vivre dans un environnement favorable pour la survie de l'humanité. Au Japon, il y a ce proverbe que j'adore. Il y a du coup qui dit il faudrait, avant de décider quoi que ce soit, imaginer l'effet secondaire sur les 9 générations futures. Ça dit énorme. Ça, les vieux, écoutez bien. Je prends ma respiration parce que là, ça va trop vite. Mais cette idée n'est pas propre qu'aux Japonais. Je connais un très grand philosophe, en tout cas moi je trouve que c'est un très grand philosophe et je suis très admirative de son travail. C'est un philosophe allemand, Hans Jonas. Et dans le principe de responsabilité, Jonas, la responsabilité d'empêcher, c'est une citation tirée du livre « Les principes de responsabilité ». Et il dit « La responsabilité empêcherait l'homme de prendre des mesures qui pourraient mettre en danger l'existence des générations futures ou la qualité de vie sur la planète. » Donc pensez bien à ça, la qualité de vie sur la planète. Et la qualité de vie, tout court. Certes, en Jonas parle au niveau écologique, cependant, dans notre contexte, contre la réforme de la retraite, il est plus que nécessaire que cela soit pensé sur tous les sujets. Ce que le gouvernement de Macron et les vieux réacs et tous les pro-réformistes de la retraite sont-ils conscients de leurs actes? Bien sûr que oui, mais est-ce qu'ils sont prêts à en prendre la responsabilité? Ça, c'est une autre histoire, parce qu'ils sont tout le temps, ils sont jamais responsables de rien, pourtant tout vient d'eux. Car c'est une, ça, on sait que la réforme, c'est une aberration sociétale. Ce qui se passe actuellement, mais ils ne sont toujours pas conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Enfin, nous, on est conscients, ils le sont aussi, mais on va dire, eux, ça les arrange, pas nous. Pour terminer et donner une réponse aux vieux réacs qui pensent que les jeunes n'ont rien d'autre à faire que de penser à la retraite ou les vieux qui pensent aussi qu'on n'a pas notre place dans ces mobilisations, j'ai un petit message pour vous. Sachez que leurs rôles sont inversés. Souvent, on pensait que c'est la jeunesse qui est irresponsable, mais là, on voit bien que c'est plutôt le contraire. On prend les choses et on prend les devants. Et petit rappel, c'est l'enfance qui nous soustrait de nos responsabilités. Et nous, en tant que les enfants du peuple, je dirais aux vieux d'arrêter de nous bassiner avec les arguments un peu fallacieux de vous êtes jeune, la retraite, c'est ça ne vous concerne pas. Moi, je ne suis pas prête à me retrouver dans la rue à 64 ans pour manifester. Et dites-vous qu'il y a 60 ans de cela, les gens se sont mobilisés, donc. Et je pense qu'ils n'étaient pas, c'était pas tous des vieux. Du coup, remercions-nous plutôt pour nos efforts et soyez plus compréhensibles. Ça, on peut trop vous demander. Si ça, on peut trop vous demander, taisez-vous juste. Parce qu'on n'a certainement pas envie de bosser pour le grand capital jusqu'à la mort. Alors, il est de notre responsabilité en tant que jeunes et en tant que vieux d'aller lutter. Et surtout d'être dans la rue pour toutes les mobilisations à venir. Merci.
Ah bah écoute, moi j'aimerais bien qu'il y ait des vieux réacs qui écoutent Radio Libertaire, hein, parce que là, je pense qu'ils en prendraient une bonne leçon. Hein, non mais vraiment, ça serait sympa. Malheureusement, je suis pas sûre qu'on soit le public cible, mais en l'occurrence, mais vraiment, on est d'accord. C'est vrai que c'est un argument qui est revenu très souvent, c'est-à-dire que au début de la mobilisation, ça m'a semblé assez incroyable. On me disait mais pourquoi ils se mobilisent en fait les jeunes, parce que finalement, enfin ça les concerne pas tout ça. La retraite c'est loin. Il y a le temps d'avoir 15 millions de réformes. Ah oui c'est vrai, on a le temps de faire toutes les réformes pour travailler jusqu'à 115 ans. C'est vrai, on a le temps de voir passer cette réforme là. Mais est-ce que c'est vraiment ce dont on a envie? Et évidemment que non. Donc c'est vraiment je trouve, l'argumentation de la dernière chance, c'est-à-dire qu'ils savent plus quoi inventer pour décrédibiliser un mouvement étudiant et lycéen, parce que les lycéens se sont aussi mobilisés en bloquant leur lycée. Et pour le coup, vraiment, j'ai trouvé cette argumentation très bancale et surtout très efficace. C'est-à-dire qu'il y avait énormément de personnes, pas forcément plus très âgées, enfin des personnes dans la quarantaine, qui trouvaient ça effectivement peut-être un peu exagéré pour les jeunes de se mobiliser, alors que finalement c'était pas tellement leur business quoi qui était en train de se jouer. Mais absolument que non. C'est quelque chose qui est un enjeu de société, en fait. Et un enjeu de société, il est discuté également par les étudiants, par les lycéens. Bon, peut-être avant, c'est compliqué. Mais disons que dès qu'on a une conscience politique, on a le droit de l'exprimer. Et il ne faut pas oublier que nous, en tant qu'étudiantes ou lycéens, on n'a pas beaucoup d'autres choix que de bloquer ou de faire des AG ou d'essayer, en tout cas, de créer du débat dans nos lieux d'études. Parce que, à part ça, il ne nous reste pas grand-chose pour finalement faire entendre notre voix. On n'a pas, justement, la possibilité, comme les travailleurs, de bloquer la machine du capital. Pour nous, on n'y est pas encore entré. Okay.
Et du coup, même là, le fait qu'on n'ait pas ces moyens de bloquer les machines des usines, en faisant des AG dans les facs, c'est déjà un grand pas pour montrer qu'on est là. Mais aussi, ce que tu disais, on n'a pas beaucoup de moyens pour montrer qu'on est vraiment très déterminé à ne pas laisser passer cette réforme. Et on fait tout pour nous décourager et un peu nous soustraire de cette réforme, comme si on ne faisait pas partie de la société et que cela ne nous concerne pas. Enfin, même un enfant qui a 5 ans, cette réforme concerne. Enfin, c'est son futur qui est un peu en jeu, quoi.
Même c'était pas comme, qu'un peu.
Oui.
Mais c'est vraiment la tactique, on va dire, basique du diviser pour mieux régner. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de diviser les travailleurs entre eux et les travailleuses, ils n'y sont pas arrivés. Du coup, ils se sont dit, bon, on va essayer de diviser les générations. Comme ça, peut-être ça va marcher. Mais en fait, tout le monde a bien compris que non, c'était injuste à travers les générations. Et donc, du coup, bon, il y avait une solidarité naturelle qui s'est créée. Je ne dis pas que tout est rose et que tout le monde s'entend parfaitement et que les étudiants et étudiantes ne gardent pas en tête quand même qu'effectivement, il y a des revendications qui leur sont propres. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que j'aimerais bien aussi en parler, pour pas que la retraite éclipse absolument toutes les autres revendications qu'on porte de façon plus personnelle, qui nous concerne plus personnellement. Mais on est d'accord que la question de la solidarité intergénérationnelle, on a très vite compris qu'elle serait au cœur de notre lutte et qu'il n'y avait pas de raison de s'en priver, en fait, dans la situation.
Oui, je pense aussi au profil de ces étudiants et des personnes qui défendent. Est-ce qu'on a d'un côté entre une défense intergénérationnelle, on a aussi une défense interclasse peut-être, où on va avoir un profil d'étudiants qui vont être formés à une certaine culture, éduqués à une certaine culture, qui vont prendre le parti de travailleurs qui, eux, n'ont pas cette culture et qui ont leur culture propre. Donc il y a aussi un mélange de ces deux cultures pour une même lutte.
Et ça, c'est extrêmement important parce que, bon, nous, on parle à des auditeurs et des auditrices, peut-être, qui ont beaucoup plus de promiscuité avec toute la mythologie de mai 68 et qui ont peut-être déconstruit beaucoup de choses par rapport à ça. Mais en tout cas, pour moi, qui suis jeune, et peut-être pour vous aussi, c'est quelque chose qui reste quand même, comme une date importante dans l'histoire, même si, bon, il y avait évidemment beaucoup de critiques qu'on peut en faire, mais c'était un moment où il y a eu aussi justement ces étudiants un peu intellectuels, parce que bon, c'est vrai que les étudiants dans les facultés, c'est plutôt pour faire des études intellectuelles, qui allaient dans les usines et qui allaient sur les piquets de grève et qui prenaient conscience peut-être davantage de ce que c'était qu'un travail ouvrier, quoi. Et bon, on n'y est pas encore, peut-être pas à ce point, mais il y a quand même cette volonté d'aller vers, effectivement, peut-être une solidarité de classe plus consciente. Parce que je dirais qu'elle est un peu spontanée, peut-être pas très réfléchie, et il y a quelque chose qui est en train de se construire et qui pourrait être plus clairement exprimé peut-être, et qui mériterait d'être clairement exprimé. Donc, écoutez, je pense qu'on va faire une petite pause musicale avec Bob Marley.
Merchant ships, minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs. All I ever have, redemption songs. These songs of freedom, songs of freedom.
Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices, vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, et vous écoutez Délibéré. Vous venez d'entendre Redemption Song de Bob Marley, et donc s'il ne lui reste que ces chansons, mais nous avons encore la lutte. Ça, c'est quand même important, donc c'est pour ça qu'on va en parler encore pendant une petite heure. Ensemble avec mes co-animatrices. Et là, on va passer à un autre sujet qui fait le lien avec ce qu'on disait sur la solidarité interclasse, puisque tu vas nous parler, Claire, de la représentation du travail ouvrier au cinéma.
C'est exact. Je ne sais pas vous, mais quel plaisir de travailler. Vive le travail! Enfin, je dis cela en tant que personne qui ne peut se plaindre de travailler puisqu'elle ne travaille pas, du moins dont l'activité d'épauge artistique ne peut pour l'instant être rémunérée, parce que c'est cela, le travail, c'est gagner de l'argent, nous dira-t-on, beaucoup de surcroît, telle une quête de la vie épanouie. Ma vie d'épauche s'apparente donc davantage à une vie de débauche. Et vous, dites-moi comment vous travaillez. Enfin, ce n'est pas à moi qu'il faut le dire, je vous laisse passer le message parce que semblerait-il que tout le monde, particulièrement les personnes ayant ce travail leur permettant de mener une vie épanouie où argent, travail et vie personnelle semblent contribuer à la parfaite harmonie, ne soient pas dotés d'imaginer ce qui se passe dans le travail des autres et cela irait même, paraît-il, jusqu'à des propositions de recul de l'âge de la retraite. C'est pour vous dire. Alors, pour une frange interne à ce groupe d'individus qui, malgré leur justification de bonne foi, ne peut hélas imaginer ce qu'endurent certains de ceux qu'ils aiment considérer comme leurs égaux, j'ai décidé de mettre en place une petite liste suggestive de conseils cinématographiques pour qui sait que la fiction vous rapproche davantage de la réalité et ne pas en rester sur le classique des temps modernes de Charlie Chaplin. Quittons d'abord Paris pour rejoindre les terres rurales de l'élevage de Pierre Jargeau, qui à 25 ans, en 1979, entreprend de racheter ce que son père avait avant lui construit. C'est rempli d'ambition qu'il veut faire grandir ce projet en optant pour des cultures plus rentables et une mécanisation de ces cultures. Évidemment, cette ambition s'accompagne de dettes qui se nourriront davantage par de nouvelles expansions suite aux promesses de sociétés d'élevage, car ainsi va cette société, il faut investir, prendre des risques, risquer sa vie pour son entreprise.
Te voilà le propriétaire des grands bois. Bon, l'important, c'est que ça reste dans la famille.
Alors vas-y, là, c'est bon, là. Arrête tes conneries.
Il n'y a plus de trésorerie, là. On est à sec.
Monsieur Jargeau, les avances de trésorerie, ça commence à faire beaucoup. Surtout cumulé avec l'ensemble des prêts.
T'es quoi ces conneries? Tu vas te remettre un crédit sur le dos?
On voit bien, là, votre nouveau bâtiment. Il y en a qui disent que ton père, il se la pète, hein.
Pareil que t'es dans la merde. Si tu m'avais écouté, au lieu d'aller foutre la main dans le système...
T'étais jusqu'au cou dans le système.
Moi, au moins, j'étais libre.
Mais qu'est-ce que tu veux, en fait? Qu'est-ce que tu cherches?
Qui se démerde.
Faut s'en sortir, y'a qu'une seule solution, c'est de partir.
Moi, papa, je prendrai la suite au grand bois.
Hein. C'est fini, les grands bois, si tu passais.
Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus.
Édouard Bergeron, le réalisateur, nous raconte donc en tant que témoin le récit intimiste de son père et de la ferme dans laquelle il a grandi. Entre mise en garde sur les dérives actuelles de l'industrialisation de l'élevage et de l'agriculture, et hommage à ce père disparu dans l'engrenage de son entreprise. Ce film, sorti en 2018, mérite donc d'être vu. C'est ensuite de Thème Rock que j'aimerais vous parler. Il faut le regarder avec un œil curieux. Claude Faraldo y met en scène la plupart des acteurs du Café de la Gare dans le rôle d'ouvrier. Mais la particularité étant qu'il n'utilise pas d'éléments de langage construits dans les dialogues pour laisser place uniquement à des cris, des grognements qui s'entrelacent dans les bruits des machines et de la ville. ses effets de mise en scène cherchent à raconter le quotidien d'ouvriers et leur rapport au désir. Comment le désir, la sexualité, peut permettre d'instaurer une égalité entre les individus, les sortir d'un système capitaliste en les orientant vers des besoins primaires et leur légèreté. Sorti en 1973, ce film est l'exemple de ce cinéma de contestation des années 70, signant par la satire, le refus des normes établies, la quête de liberté. Nous en avons parlé tout à l'heure des inspirations des années 60 et 70, et elles sont toujours à reprendre dans des éléments cinématographiques. Il est replacé dans ce contexte comme une inspiration ou un exemple. Et cela nous mène vers la troisième création de cette liste suggestive de films à voir pour trouver sens à la contestation. J'ai nommé le bien connu « Merci patron » d'un certain François Ruffin. Vous le connaissez en tant qu'homme politique, rédacteur de journaux et de tribunes engagées, mais connaissez-vous son travail en tant que réalisateur ? Bien sûr, il ne perd pas de son engagement à la réalisation en signant ce film remarqué en 2017, puisqu'il a obtenu le César du meilleur film documentaire. Merci patron, c'est l'histoire de Jocelyne et Serge Clure, pour qui rien ne va plus. Leur usine fabriquait des costumes Kenzo, du groupe LVMH, à Poix du Nord, près de Valenciennes, mais elle a été délocalisée en Pologne. Voilà le couple au chômage, criblé de dettes, risquant désormais de perdre sa maison. C'est alors que François Ruffin, fondateur du journal Fakir, frappe à leur porte. Il est confiant, il va les sauver. Entouré d'un inspecteur des impôts belges, d'une bonne sœur rouge, de la déléguée CGT et d'ex-vendeur de la Samaritaine, il ira porter le cas Clure à l'Assemblée Générale de LVMH. Bien décidé à toucher le cœur de son PDG, j'ai nommé Bernard Arnault, ce film relate le combat de David contre Goliath. Alors, ces Picards réussiront-ils à duper le premier groupe de luxe au monde et l'homme le plus riche de France ? Ce film risqué et surprenant est optimiste face à la situation politique dans laquelle nous nous trouvons actuellement, où la politique ne s'exerce plus qu'au sein des assemblées, mais dans la rue, au sein des foyers, au sein des universités, et résulte d'une lutte, d'un optimisme grandissant autour du bien-être collectif pour que nous ne renoncions pas à croire à ce que l'on a cru pendant des années, pour que les petits fassent le poids face aux grands et que leur combat soit victorieux. J'espère ainsi que cette courte liste permettra à certains de sortir de leur vision restreinte pour qu'ils puissent comprendre que le travail est pour beaucoup une labeur dont les corps, les esprits, pour ne citer qu'eux, portent les marques et que travailler quelques années de plus n'est pas envisageable lorsque cette vie de travail s'est résumée à l'attente. L'attente de la retraite, de ne plus avoir à se lever pour exercer une activité dans laquelle nous ne nous y mettons pas pleinement de sens et qui, oui, exerce plus de contraintes que de plaisir. Alors oui, vive le travail, mais vive la retraite surtout.
Merci Claire pour ces petits conseils cinématographiques. J'avoue que pour moi c'est vraiment quelque chose d'important, effectivement, de porter à l'image des franges de la population qu'on a tendance à caricaturer. Beaucoup, et peut-être que on va en parler un petit peu ensemble. Enfin, moi, ça m'intéresserait. J'aimerais bien, ça m'a donné envie de parler d'un film. Donc, je pense que je vais vous en reparler après pour voir si vous l'aviez vu aussi et si ça pourrait s'ajouter à la liste. Et Alix, t'as un truc à nous dire aussi.
Oui, petite demande de la part d'une auditrice, c'est de réavoir les noms des films. Et je me dis que c'était peut-être pas la seule, peut-être avec les réals et les dates.
Oui. On a d'abord Au nom de la terre, c'est un film d'Édouard Bergeron avec Guillaume Canet à l'interprétation. Il est sorti en 2018. Ensuite, le second film, c'est Thème Rock, un film de Claude Faraldo, sorti en 1973. Et le dernier film dont j'ai parlé, c'est Merci patron. C'est un film de François Ruffin, un documentaire qui est lui sorti en 2016 et primé en 2017 au César.
Oui, parce que c'est vrai que nous, on a tendance à se laisser un peu emporter dans le flux de nos chroniques, mais bon, pour les auditeurs, quand même, ça fait beaucoup d'informations d'un coup, donc oui.
C'est beaucoup d'envie cinématographique d'un coup.
Oui, bah oui, absolument. Mais c'était intriguant, le film sur justement la mise en scène sans langage articulé. Thème Rock, je pense que ça produit quand même une impression assez impactante. Je ne sais pas si ça s'inscrit effectivement dans la droite lignée des films que tu as proposés, mais moi j'aimerais bien quand même parler d'un film que j'ai vu parce qu'il m'a énormément émue. C'est un peu un classique pour ceux qui s'y connaissent un peu en cinéma, hein, donc ne vous attendez pas à grand-chose, mais c'est L'amour existe de Maurice Pialat. Moi, mm-hmm. C'est vraiment un film, quand je l'ai vu il y a quand même un petit peu de temps maintenant, je me suis dit que ça résonnait énormément avec un monde, on va dire, vraiment en marche, quoi, délaissé entre les ouvriers et les classes, on va dire, plus aisées des centres-villes. Et la banlieue, ce passage sur la conquête du salaire, mois après mois, difficilement, pour essayer d'acheter, enfin, un emprunt de 15 ans, sa petite maison en banlieue, et finalement se retrouver cassé à 60 ans et peut-être même pas en profiter. Et ce film-là, je pense aussi qu'il est, finalement assez actuel, en fait, par rapport au combat qu'on mène aujourd'hui. Ne pas laisser justement dévaloriser en fait l'idée que quand on passe sa vie à gagner juste à la limite de ce qu'il faut pour survivre, bah oui, en fait c'est pas une vie ça, et on n'a pas à se laisser faire, on n'a pas à subir ça 2 ans de plus. Donc
oui, c'est vrai, on voit dans ces films comme dans celui que tu as dit, où tout est exercé dans une mécanique de l'espoir, le travail finalement moteur d'espoir, et donc on travaille dans la quête d'une certaine ambition qui finalement ne se réalisera pas forcément, et c'est là-dessus que ça s'exerce aussi, cette mécanique de pensée, je pense.
Bah complètement,
oui. Du coup, moi, j'aimerais remercier Claire d'avoir parlé de cinéma, parce que le cinéma, c'est vrai que c'est de l'art, c'est l'imaginaire, c'est les paillettes. Mais il ne faut pas oublier que derrière les films, les beaux films que vous voyez, d'auteurs, d'autrices, il y a énormément d'ouvriers qui travaillent derrière. Et c'est des travaux très pénibles, les régisseurs, les monteurs. Enfin, et du coup, c'est des catégories de gens qu'on oublie souvent au cinéma. On ne voit que les acteurs, les réalisateurs et le produit final, sans penser aux gens qui travaillent derrière et qui donnent de leur temps, de leur amour, parce que le cinéma, c'est quand même... faut être très passionné par ça. Mais derrière cette passion, il y a beaucoup de travail. Et c'est bien d'en parler parce qu'on ne les voit pas. On ne voit pas ces monteurs, on ne voit pas ces régisseurs dans les mouvements, ou quand on parle de cinéma, on ne les voit pas tout court. Et je pense que quand on parle de retraite, on s'imagine très difficilement ces travailleurs, en se disant qu'ils vont être touchés et qu'ils ont une pénibilité dans leur travail, parce que le cinéma, ça reste quand même un des grands tas de notre société actuelle. Donc, merci beaucoup.
J'avoue qu'on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, hein, les intermittents,
oui,
du spectacle.
Oui.
Le régime de retraite des intermittents, là, on ne sait pas trop ce qui sera, mais...
Après, oui, quand tu décides d'être intermittent, tu penses déjà que tu n'auras peut-être pas de retraite.
Oui.
Donc, peut-être que tu te fais un peu plus vite à l'idée, mais tu soutiens.
Ça n'empêche pas de se mobiliser, de, oui, se dire qu'on n'en aura pas.
Oui, du coup, vraiment, c'est hyper compliqué déjà... à l'heure actuelle d'être intermittent dans le spectacle. Donc, dites-vous, avec cette réforme, c'est un peu une pote vers l'enfer, quoi.
Mais en plus de ça...
Oui.
En plus de ça, c'est vrai que là, je disais ça en riant, que même si nous, on nous a finalement matraqué toute notre enfance, qu'on n'aurait pas de retraite, hein,
oui,
moi, mes professeurs me le disaient avant, tranquillement, que oui, la retraite, c'est très vraisemblablement, je n'y aurais pas droit. Mais ça ne nous empêche pas de prendre conscience qu'en réalité, il faut maintenir ce droit le plus longtemps possible, et surtout conquérir en fait d'autres enfin voilà, un élargissement de la retraite, c'est-à-dire baisser l'âge légal, encore revenir à ce qu'on avait réussi à obtenir, et puis peut-être le baisser encore davantage en baissant les heures de la semaine. Enfin voilà, il faut être ambitieux tout le temps. Et ce qui m'impressionne, c'est que finalement, alors que pourtant dans la France, on peut pas dire qu'on soit dans un état de rayonnement culturel incroyable. Bah, je pense que c'est un peu un espoir pour d'autres aussi, parce qu'en Europe, on reste quand même les seuls à, enfin les seuls, presque quasiment les seuls à avoir un âge quand même de départ relativement bas, 62, parce qu'il y en a déjà beaucoup qui sont passés à 65, voire 68. 67. Oui, 67, 68. Et en fait, bah, pour ces pays-là dans lesquels la contestation finalement n'a soit pas abouti, soit n'a pas eu vraiment lieu, en tout cas pas de façon aussi massive que chez nous, bah ouais, ça représente peut-être un espoir. J'ai un peu envie de me dire ça aussi, qu'il faut qu'on monte l'exemple, quoi. Que c'est possible, que ça a marché pendant très longtemps, et il n'y a pas de raison qu'on ne préserve pas en fait ce système. Donc bon...
Après, il faut faire attention avec cet argument, parce que c'est aussi des argumentaires utilisés par des gens qui sont pro pour cette réforme. Ils disent bah, les pays voisins, c'est beaucoup plus long, la retraite, ils ne se plaignent pas, ils ne manifestent pas pour autant. Ah, donc, pourquoi on devrait le faire, nous ?
Non, il y a énormément de on va dire, hauts fonctionnaires de ces autres pays qui constatent aujourd'hui, avec amertume, les effets de l'allongement de départ qui a appauvri en fait leur population de retraités, qui se retrouvent du coup à bénéficier de minima sociaux ou alors à devoir faire des petits travaux très mal payés, très précaires. Et ça, évidemment, bah, d'une part c'est usant, donc pour eux ils ont plus d'accidents du travail, etc. Enfin voilà, il faut le gérer. Toute une population précarisée, il faut compenser par des services publics pour pouvoir la maintenir, on va dire, en bonne santé ou en santé, on va dire, acceptable. Donc en fait, il y a évidemment les politiques de droite, évidemment, tu vas pas leur demander de ne pas utiliser cet argument, parce que pour eux c'est du pain béni de dire qu'il faut s'aligner sur les autres pays d'Europe. Mais quand tu écoutes les hauts fonctionnaires qui analysent les résultats chiffrés de ces réformes, non, ils sont plutôt assez opposés à ce qui s'est passé chez eux. Ils regrettent que ça ait pu avoir lieu. Et surtout, ils se disent, moi je pense qu'ils pourraient refaire démarrer un mouvement de contestation pour reconquérir ces droits qui ont été perdus s'il y avait un exemple en France.
Oui.
Parce que c'est ça la chose aussi, c'est de se dire que finalement, on voit le résultat. Il y a eu 15 ans, à peu près 10-15 ans, pour nous laisser admirer chez les voisins que ça n'a pas marché. Bon, bah du coup, faisons autrement, quoi. Je sais pas, moi je pense que c'est plutôt bien de le voir comme ça.
Ça montre aussi qu'il y a de la résonance dans cette huître à l'étranger. Ça s'est vu dans beaucoup de médias. Et dans les extraits de journaux télévisés que j'avais vus, c'est surtout un étonnement qu'il y a pourquoi ils manifestent pour un âge de la retraite aussi bas, alors qu'eux travaillent déjà bien plus longtemps. Donc il y avait ce parallèle entre peut-être une petite moquerie, enfin un étonnement, et ce truc en mode et on dirait que ça marche.
Mais c'est parce que ça marche qu'on manifeste, c'est parce qu'on le sait que ça fonctionne. Donc on n'a aucune. On n'a aucune gêne à pouvoir exprimer notre mécontentement quand on veut nous sucrer, ce qui fonctionne parfaitement. Comme nos services publics, d'ailleurs. Oui. Nos services publics, qui fonctionnaient très bien. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir dire, nous aussi, un petit mot au patron avec cette pause musicale.
Quand on arrive à l'usine, la gaieté nous illumine. L'idée de faire nos 8 heures nous remplit tous de bonheur.
Ah oui.
D'humeur égale et joyeuse, nous courons vers la pointeuse. Le temps d'enfiler nos bleus et nous voilà tous heureux.
Laïra, laïra, yeah. Merci patron.
Merci patron.
Merci patron.
Merci patron.
De travailler pour vous, on est heureux comme des fous. Merci. patron.
Merci patron.
Merci patron.
Ce que vous faites ici-bas, un jour Dieu vous le rendra.
Quand on pense à tout l'argent qu'au fin de mois on vous prend, nous avons tous un peu honte d'être aussi près de nos comptes.
Ah, 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 ah oui.
Tout le monde à la maison vous adore avec passion. Vous êtes notre bon ange et nous chantons vos louanges.
Like la, like la, yeah. Merci patron.
Merci patron.
Merci patron.
Merci patron.
Quel plaisir de travailler pour vous. On est heureux. Un jour Dieu vous le rendra.
Oui, c'est ça.
Mais en attendant ce jour, pour vous prouver notre amour, nous voulons tous vous offrir un peu de notre plaisir.
Ah, 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 ah oui.
Nous allons changer de rôle, vous irez limer la tôle et nous nous occuperons de vos ennuis de patron.
Like you like you like.
Nous serons patrons.
Nous serons patrons.
Nous serons patrons.
Nous serons patrons.
À vous le plaisir de travailler pour nous.
Vous serez heureux comme un fou.
Nous serons patrons.
Nous serons patrons.
Nous serons patrons.
Nous serons patrons.
Ce que vous avez fait pour nous,
nous le referons pour vous.
Et il est plus petit que le jardin de ma tante.
Oh, pas vrai.
Ah bah si. Et mon, mon patron, il change de costume deux fois par jour.
Chers auditeurs, chères auditrices, vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, et vous écoutez des libérés, modeste relais des luttes étudiantes sur les ondes de Radio Libertaire. Vous venez évidemment d'écouter Merci Patron des Charlots, un grand classique mais qui fait toujours plaisir à entendre. Merci Claire du coup pour la chronique que tu nous as faite sur la représentation du travail ouvrier au cinéma qui nous aide à faire évoluer nos imaginaires, surtout peut-être pour nous jeunes étudiants intellectuels. Donc vraiment merci pour ce travail-là. Et toi qui es revenu sur la pénibilité du travail ouvrier, ça me permet maintenant d'aborder un autre point qui me semble vraiment primordial, qui est celui de la précarité des femmes, puisque ce projet de réforme des retraites, il va effectivement impacter davantage les femmes. J'aimerais revenir là-dessus parce qu'en plus la journée de mobilisation le 7 mars, donc qui appelle à la grève générale, sera suivie peut-être d'une grève reconductible le 8 mars. Et ça tombe très bien. Disons que bon, il y a eu effectivement tout un débat au sein des sphères féministes pour savoir si c'était une bonne chose ou pas. On pourrait l'avoir entre nous, ça pourrait être intéressant. Mais en tout cas, le fait est que ça va avoir lieu ce jour-là, donc il faut s'y préparer. Et je pense que la meilleure des choses, c'est de revenir sur la situation des femmes et pourquoi cette réforme, selon notre propre ministre délégué aux relations du Parlement, j'ai nommé Franck Riester, a admis pouvoir impacter peut-être un peu plus les femmes, en effet. Et ça, quand même, c'est beau d'avoir des ministres qui admettent que leur réforme est injuste et sexiste. C'est vrai que ça fait plaisir. On se dit, on n'a plus besoin, finalement, d'étaler nos propres arguments, puisqu'ils le font eux-mêmes. Mais moi, je vais aller plus loin que dire simplement que les femmes vont être un peu pénalisées. Je vais essayer de revenir sur quelques points plus précis pour essayer de rendre justice à cette population précaire qui n'est absolument pas minoritaire puisqu'il s'agit de la moitié de la population. Donc c'est peut-être important quand même de penser à l'égalité salariale et à l'égalité face à la retraite. Déjà on peut dire que selon l'étude d'impact réalisée par le gouvernement lui-même cette année, donc bon, on ne va pas dire que ce soit des grands gauchistes au gouvernement, la réforme devrait allonger donc de environ, en moyenne, 4 mois, la durée de travail donc, d'un homme, et 8 mois pour une femme. Bon, donc on est juste du simple double hein, sur ce calcul de moyenne. Alors déjà, bon, ça commence bien. Effectivement, pour le moment, on est déjà dans une situation qui n'est pas reluisante, puisque les femmes, en moyenne, travaillent 7 mois supplémentaires pour toucher leur retraite à taux plein. Donc, selon la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation des Statistiques, et que 19% des femmes attendent l'âge quand même de 67 ans, qui est celui de la décote. Donc, bon, on peut se dire quand même que, à côté de ça, les hommes qui sont contraints par leur faible revenu d'attendre cette fameuse âge de décote 67 ans, c'est 9%. Donc 9%, voilà. Donc on voit déjà qu'il y a une égalité qui est bien prégnante, et plutôt que de l'améliorer, bon, bah on va la creuser. C'est un peu le projet, le fameux projet. Donc voilà, moi, en plus, il faut quand même rappeler que la décote, c'est pas rien. C'est quand même 1,25% en moins par trimestre manquant. Donc quand on dit qu'effectivement, il y a des gens qui attendent l'âge sans décote, c'est que bah, voilà, pour eux, c'est un enjeu de taille sur le montant de leur retraite qu'ils vont pouvoir toucher. Et 67 ans, je pense qu'en France, ça fait blêmir les visages. Parce que si certains confrères européens ont peut-être accepté de laisser passer la pilule, nous, il est hors de question que cela arrive. Et pourtant, bon, bah, y a quand même certaines populations précaires qui, justement, qui sont moins médiatisées, qui sont moins représentées dans les médias, et qui sont déjà obligées de partir à cet âge-là, de fait. Donc, je pense que c'est quand même pas mal de revenir sur cet état des lieux. Maintenant, il y a plein de façons de régler ce problème, et ce serait peut-être mieux de commencer par là, c'est-à-dire déjà de revenir sur le décompte des 25 meilleures années dans le privé, puisque ça date d'il y a bien longtemps, ça date de 93, mais le fait est que l'allongement pour le calcul des retraites, de la prise en compte des années, donc de 10 à 25 ans dans le privé, ça a eu pour conséquence de diminuer les pensions des femmes, puisque bah, quand on calcule sur une plus longue période de travail, les 25 meilleures années, on va tomber peut-être plus facilement sur des périodes de temps partiel, des congés, maternité, enfin, voilà, tout ce qui fait que les femmes ont des carrières peut-être plus hachées, qui sont plus difficiles à faire, à valoriser. Et c'est vraiment, je pense, à partir, bon, bah, de toute façon, de 93, que ça a été, enfin voilà, que le processus de déconstruction du système des retraites a été lancé. Et contre ça, bah, on pourrait déjà faire des choses simples, c'est-à-dire réduire l'écart de salaire entre hommes et femmes. Puisque, bah, oui, en fait, les femmes ont toujours, font toujours face à une inégalité salariale conséquente, puisqu'elle est, selon les études statistiques, entre 22 et 28% d'écart par rapport à un salaire proposé à un homme. Donc, on est environ, hein, si on coupe le bord en deux, on est à peu près à un quart de moins de salaire pour une femme. Mais je parle évidemment pas des difficultés et de l'inégalité de l'emploi, enfin au moment de l'embauche, puisque les postes qu'on va proposer aux femmes, ou même la possibilité de monter en grade, n'est évidemment pas la même pour une femme que pour un homme. Donc souvent elles vont rester à peut-être des postes moins bien rémunérés, alors qu'elles effectuent pas forcément des fonctions moins importantes que certains autres cadres. Donc on est là face à vraiment une inégalité qui, en étant comblée, pourrait rapporter plusieurs milliards au gouvernement, puisque bah, une personne qui gagne plus d'argent, c'est plus de cotisations sociales, et donc plus d'argent dans les caisses de retraite. Voilà, c'est mathématique. Et ça, déjà, ce serait une grande chose. On pourrait aussi peut-être revaloriser, finalement, le travail des femmes qui ne sont pas forcément en en emploi, puisque une femme qui prend des congés maternité pour élever ses enfants, et ben oui, elle travaille toujours, elle travaille beaucoup, elle travaille sans être rémunérée, et c'est pas compté pour la retraite, c'est bien dommage. Donc on pourrait peut-être revoir justement les processus qui permettent à ces femmes d'être compensées. Ça existe déjà, on va dire, légèrement, plutôt pour le privé d'ailleurs que pour le public, parce qu'il y a une différenciation entre le secteur privé et la fonction publique. Mais effectivement, il existe une sorte de majoration pour les femmes qui ont eu à élever des enfants, notamment quand c'est plus de 3 pour les familles nombreuses. Mais bon, apparemment, le gouvernement veut revenir là-dessus. Parce que c'est un peu compliqué quand même, hein, tout ça. Il faut faire des calculs et tout. Franchement, est-ce qu'on n'a pas envie d'un régime égal pour tous, hein? Vraiment, mais alors, pareil qu'on porte des sacs de ciment toute la journée ou qu'on soit assis dans un bureau, même régime, quoi, c'est important. Moi, je trouve ça vraiment formidable. L'idée de l'équité, non, je ne comprends pas ce mot.
Oui, l'idée de l'équité, tu en parlais justement au niveau des cadres, des entreprises, où on peut s'interroger pour faire la continuité avec ma chronique sur la représentation des femmes dans les usines, qui, elles, il va justement pas avoir cette différence de fonction, on ne va pas leur donner des fonctions où elles vont exercer un poste avec moins de responsabilités, elles vont avoir autant de responsabilités et elles vont pas être reconnues de la même manière. Elles vont porter les mêmes charges au niveau du poids, elles vont avoir la même charge mentale, et on parle pas spécialement des ouvrières. On va avoir une représentation des ouvrières dans des usines de textile, par exemple, mais pas dans des usines de sidérurgie ou d'agroalimentaire. Et je pense qu'il y a cette représentation aussi entre la femme dans la place du travail, on va dire, d'un côté peut-être plus bourgeois, et de l'autre d'un côté ouvrier, qui finalement exerce leur féminisme d'une autre manière et qui est tout à fait différentes et pas exprimées de la même manière, mais qui méritent d'être analysées.
Bah, d'autant plus que cette inégalité de représentation, elle est évidemment visible dans les œuvres cinématographiques, hein, ça on est tout à fait d'accord, mais quand on se penche sur les métiers qu'on appelle les métiers du care, les métiers du soin, on se rend compte que ce sont des métiers très largement féminisés, et c'est étonnant que ce soit justement ces métiers-là qui soient très mal rémunérés. On se demande s'il y a pas là une corrélation. Évidemment, je pense qu'on est d'accord que ça, il doit y avoir un petit lien quand même quelque part. Et effectivement, c'est déjà revaloriser la pénibilité de ces travaux et la qualité de ces travaux, parce qu'ils sont indispensables et ils sont souvent très bien exécutés par des personnes qui sont passionnées et qui font ça avec autant de courage et de détermination et de force que les hommes. Et donc, je pense que c'est absolument important. Et le fait de changer cet imaginaire-là, ça permettrait de réduire les inégalités de fait. Puisque tant qu'on reste dans cet imaginaire très masculiniste, finalement, on n'arrive pas à se départir des clichés à l'embauche, et puis même d'une certaine, pour les femmes aussi, d'une certaine difficulté à faire reconnaître leur propre travail. C'est-à-dire qu'à un moment, on a tellement intégré qu'il fallait accepter de faire des tâches supplémentaires ou d'être dans un métier un peu passion qui, certes, nous rémunère peu, mais nous donne nous épanouit tellement. Du coup, on peut quand même bien supporter de pas avoir d'augmentation de salaire. Enfin, bon. Tout ça, c'est des choses qu'on a beaucoup plus intégrées quand on est femme, je pense, que quand on est homme, même si, dans une certaine mesure, les hommes aussi sont pris dans ce système capitaliste, on est bien d'accord. Donc, en tout cas, ce serait un point déjà très simple et... très simple. C'est ambitieux, mais à la fois c'est simple à mettre en place pour pouvoir finalement rapporter plus d'argent et réduire le peut-être déficit des caisses de retraite. On ne sait pas trop, hein, c'est un scénario sur 46, mais bon, il y a urgence. Ensuite, on pourrait aussi dire que la proportion en fait des seniors qui se retrouvent sans retraite ni emploi va forcément augmenter avec cette réforme. Et là aussi, on est dans une inégalité massive en ce qui concerne les femmes, puisque elles sont surreprésentées dans cette catégorie de population. Et le fait de précariser des femmes sur l'entièreté de leur carrière en ne prenant pas en compte justement les temps de congé maternité, etc. Et ne pas peut-être réfléchir à l'obtention d'un congé paternité peut-être qui serait d'égale durée et qui permettrait de confronter les hommes au fait que bah oui, une carrière peut-être hachée par la venue d'un enfant, bon, bah, ça pourrait être des options aussi à envisager. Donc voilà, c'était mon petit point féminisme sur la réforme des retraites. Je pense que c'est, du coup, comme je disais, important de le rappeler par rapport à la journée du 8 mars. Et est-ce que vous avez peut-être un mot à ajouter sur cet appel ?
Alors, pour l'appel, moi justement, j'étais assez curieuse de savoir un peu, parmi les milieux féministes que je connaissais, quelle était un peu la réaction. Parce que d'un côté, je pense que c'est bien aussi que le 8 mars soit une journée de mobilisation nationale et avec l'idée de la faire un peu à thématique spécifique féminisme. Et d'un autre côté, on peut vite s'inquiéter que la revendication féministe soit comme souvent noyée et invisibilisée derrière d'autres revendications plus considérées comme urgentes par certaines personnes, etc. Et je pense qu'en tout cas, il y a toute une partie du mouvement féministe un peu, enfin, bien politisé et pas juste un féminisme libéral ou quoi, qui est quand même assez enthousiaste avec les journées qui se préparent, parce qu'en fait, je pense qu'elles sont enthousiasmantes. Une grève générale reconductible, c'est enthousiasmant. Et c'était pour rappeler que le 8 mars, depuis, je sais pas, peut-être depuis très longtemps, mais en tout cas, moi, je suis au courant depuis quelques années, c'est... Il y a une volonté d'en faire une grève féministe. Donc, pas juste une journée où, voilà, c'est la journée des femmes et on va dans la rue, mais vraiment de montrer, en fait, tout le travail...
Et on nous offre des fleurs.
Tout le travail des femmes qui est...
C'est bien d'être femme.
Et donc, voilà, l'idée, c'était d'en faire un vrai truc, quoi. Et idéalement, voilà, que en fait, toutes les femmes n'aillent plus au travail, mais aussi ne fassent plus toutes les autres tâches que le travail salarié, pour un jour, pour aussi montrer tout ce que ça représente d'être une femme et d'être considérée comme une femme dans cette société.
Et tout le travail que ça représente aussi pour la société.
Ouais, voilà. Et je pense que donc ça ne sera pas exactement une grève féministe comme il a pu en avoir dans d'autres pays, mais pas trop en France d'ailleurs, qui sont assez marquantes avec des gros chiffres, etc. Mais je pense qu'on peut quand même, voilà, le 8 mars sera donc le 7 mars première journée de mobilisation après les vacances. 8 mars, ce sera donc à thématique spécifique féministe, avec peut-être, je crois, le cortège, pas le cortège de tête, mais le dans le tronçon de en premier un cortège féministe. En fait, normalement, le 7 mars, il y avait une marche nocturne féministe qui sera donc décalée au 6 mars, parce que deux manifs en une journée, c'est un peu dur.
C'était peut-être un peu ambitieux, là,
voilà,
pour le coup.
Donc, le 6 mars, marche nocturne. Et voilà, et j'avais entendu une féministe proposer un slogan qui, j'espère, va être repris, qui était « À partir de maintenant, c'est 8 mars tous les jours ».
Magnifique.
Donc ça, c'était pour cette partie-là. Et je voulais aussi faire une remarque sur tout ce que tu disais. Et ce que j'aime bien, c'est que ça illustre un peu un truc que j'ai l'impression d'avoir vu depuis les mouvements de contestation. Enfin, le début du mouvement de contestation, c'est que, en fait, voilà, les retraites, c'est ce qui déclenche le mouvement. Et en fait, ça permet vraiment de parler de tout ce qui est lié au travail et de remettre en question aussi beaucoup plus que juste cette réforme-là. Et voilà, donc comme en parlant du fait que la réforme des retraites va pénaliserait plus les femmes, que à travers ça, tu parles de tout le travail,
Ah oui, on remet en cause finalement une structure de société qui pénalise les femmes déjà et qui, quand on accentue en fait la précarité de la population, on accentue mécaniquement davantage celle des femmes, puisque le système est inégalitaire en soi. Ouais. Donc
et donc c'est un peu un truc que j'ai vu un peu dans les médias, dans les pancartes aussi, que en fait c'était pas juste non à la réforme des retraites, mais c'était aussi toute la question du travail.
Débordement, en fait, des contestations, parce qu'effectivement, là, ça fait plus de 5 ans que la révolte gronde, hein, donc il était temps, en fait.
On renverse le système.
Modestement, à notre micro, on va appeler à ça, hein, parce que ça, c'est, à mon avis, ce vers quoi toutes les personnes qui étaient dans la rue tendent, je pense. Mais c'est vrai que pour cette question du 8 mars, moi aussi j'y mets beaucoup d'espoir, parce qu'en fait tout va dépendre de comment ça va être organisé. Mmh. Et du coup, la pression est de notre côté, parce que si on laisse faire, ça va être organisé comme d'habitude. Donc il faut en fait que ce soit nous qui prenions les devants et qui commencions à organiser la chose pour que ce soit vraiment une journée de mobilisation féministe contre la réforme des retraites, entre autres, et aussi pour évidemment toutes les autres revendications qui seront portées par les mouvements féministes à ce moment-là.
Ça serait super beau si c'est... Si, voilà. C'est ça, le
et
début
ça pourrait
de la...
marquer le début d'une mobilisation du 8 mars massive chaque année. Grande mobilisation féministe. Enfin, on rattraperait notre retard sur certains autres pays qui ont déjà réussi à mettre en place cette grève massive du 8 mars. Ce serait quand même chouette de profiter comme ça de l'élan général de contestation pour faire émerger ces nouvelles revendications, en tout cas, pas nouvelles malheureusement, mais en tout cas ces revendications qui, pour l'instant, suscitent peut-être moins d'adhésion de la part de la population générale.
Ça s'est d'ailleurs vu lors des dernières manifestations, où finalement les manifestants ont été rejoints par des mouvements écologistes, les mouvements LGBT, et on se rend compte que finalement une lutte pour le travail, la retraite, ça devient finalement un ensemble de luttes sociales qu'il faut défendre, et où nous sommes à une époque un peu charnière, où on peut prendre le dessus, et il y a cette volonté de changer les choses plus largement, et qu'on se rend compte que finalement tout est lié, que les luttes vers le travail luttent pour le féminisme, qui luttent pour les mouvements LGBT, pour des mouvements écologistes, donc il y a cet aspect social à conserver.
Et pour le coup, j'ai pas l'impression que le mot convergence des luttes ce soit un si gros mot que ça. Moi, ça me porte plutôt. J'avoue que je pouvais comprendre les personnes qui critiquaient, disant que ça noyait peut-être des revendications, mais là j'ai l'impression que, au contraire, en fait, ça donne du souffle, ça donne de l'élan. Donc il faut faire avec pragmatisme et voir ce qu'on a et profiter du résultat plutôt positif pour l'instant.
Mais bon. Oui. Du coup, c'est ce que je voulais rajouter, c'est ce qu'il faut, genre une convergence des luttes, parce que lutter chacun de son côté pour tel truc, pour la retraite, pour des mouvements, les revendications féministes, LGBT, on voit que souvent ça va pas très loin. Tu vois, c'était comme pendant les élections présidentielles, on a essayé de faire un mouvement.
Chacun sa chapelle.
Oui, les étudiants qui ont essayé de monter le mouvement de leur côté, les ouvriers qui ne voulaient pas d'eux. Enfin, on a bien vu que le mouvement s'est très vite essoufflé. Pourtant, quand on a une vraie convergence de lutte, on se pousse vers l'avant et on montre vraiment, du coup, la présence scénique, elle est beaucoup plus forte.
Ah ben, c'est à mon avis, ce qui serait le plus souhaitable et ce qui est peut-être en train d'arriver. Et donc, moi, je vous avoue quand même, je suis hyper enthousiaste. Hein. Donc, vraiment, là, j'ai très, très hâte d'être au 7. Et puis au 8. Et puis au 9. et puis après, ad vitam, hein, on le sait bien. Écoutez, je pense qu'on va s'écouter un petit son, justement, parce que je cours pas mal les manifestations en ce moment. Je sais pas vous. Hein. Je suis souvent dehors. Je marche pas mal dans Paris en ce moment. Et du coup, ça m'a fait découvrir un petit groupe qui envoie des sons sympathiques. Et j'aimerais bien faire découvrir pour une fois une autre chanson de ce groupe-là. Donc je vous laisse écouter. d'écouter Queen Kong des Vulves Assassines. Donc peut-être que certains et certaines auront reconnu la patte des Vulves Assassines qu'on retrouve effectivement en manif assez souvent pour leur chanson La Retraite. Mais franchement, écoutez leur album Dust Capital parce que franchement là, ça fait du bien. Hein, ça permet de crier un bon coup. C'est un exutoire assez efficace. Donc voilà, je vous les conseille. Et sinon, vous êtes toujours sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, sur Délibéré, l'émission qui débat un peu de l'actualité des luttes étudiantes. Et puisque nous avions parlé de convergence des luttes dans la séquence d'avant, c'est, je pense, le moment de parler plus précisément des luttes portées par les étudiants et étudiantes, voire même par le secteur de l'éducation, parce que c'est assez large finalement ce qui est en train de se passer, étant donné que beaucoup de choses bougent. On en entend peu parler, puisqu'évidemment, bon, tous les esprits sont tournés vers la réforme des retraites. Mais en réalité, dans le domaine de l'éducation, il y a énormément de réformes qui sont en train d'être passées et à bas bruit, bouleverse complètement des méthodes de travail et la qualité de l'enseignement. Donc, j'ai l'impression que la réforme des retraites a donné de l'élan à certaines luttes. Et voilà, j'aimerais m'en faire le relais pendant quelques minutes. Déjà, ce qui est peut-être le plus loin de moi, donc je vais en parler en premier pour, juste pour donner à titre informatif, mais il y a effectivement une réforme qui vise à fermer des classes en primaire. Donc vraiment, déjà des classes qui sont plutôt chargées, on est plutôt autour de 25 élèves, et là on arriverait à une moyenne de 27-28 élèves par classe. Bon, la primaire, la maternelle, c'est pas rien en fait, c'est pas un moment qu'on doit ignorer dans l'éducation d'un enfant. Donc j'ai trouvé que c'était assez intrigant pour le gouvernement de décider de ce moment-là pour le passer, sachant que les enseignants, s'ils font grève aussi, bloqueront bien le pays. Peut-être que c'était pas le bon moment. Et d'ailleurs, ouais, même rien qu'en passant pour venir au studio, je voyais l'école maternelle devant laquelle je passe à chaque fois, qui était avec plein de fanions, plein de pancartes, plein de banderoles pour appeler au soutien, pour dire que les professeurs et professeuses étaient en grève. Et voilà, je pense que c'est important aussi de parler de cette lutte-là, qui s'inscrit aussi dans celle menée par les lycées pro. Puisque, notamment en région parisienne, il y a énormément de classes qui vont fermer. Sachant que c'est pas forcément des lycées entiers qui ferment, mais des sections ou des classes, parfois des lycées quand même. Et après, les élèves sont répartis dans d'autres lycées de la ville, donc parfois peut-être à une heure de chez eux, alors qu'ils avaient un lycée à 10 minutes. Et on avait déjà reçu d'ailleurs Mathis qui nous avait parlé de mobilisation dans son lycée, et j'en profite pour dire que n'hésitez pas à aller réécouter toutes nos émissions fort nombreuses puisque nous avons commencé cette année sur le podcast de Radio Libertaire. Et oui, donc vous y trouverez nos émissions, mais évidemment beaucoup d'autres qui seront très intéressantes, donc n'hésitez pas à faire un tour. Et cette mobilisation donc du lycée pro, j'y reviens, puisque elle dégrade fortement la qualité de l'enseignement des lycéens professionnels. Ils vont devoir notamment diminuer le temps des heures de cours général et au profit de davantage de temps dans les entreprises en stage, donc qui est quand même du travail sous-payé, hein, on va dire du travail à bas prix. Et en plus de ça, ils n'auront plus accès à leurs locaux qu'ils avaient auparavant, qui étaient donc équipés avec du matériel spécifique qui est souvent coûteux, qui est souvent encombrant et qui ne pourra pas forcément être accueilli par le nouveau lycée qui devait prendre en charge ses classes. Donc apparemment, il y a une sorte de coalition entre les lycées et les écoles maternelles pour dire non à la fermeture des classes, donc soutenons-les. Et enfin, aussi, une autre école dont je voulais parler, ça me tient un peu à cœur. Donc, c'est vrai que je vais faire ce petit moment de promotion pour l'école Louis Lumière, qui est une école publique de cinéma. Et bon, vous avez remarqué que nous, on aime bien parler un peu de cinéma. Donc, c'est vrai, on a quelques incohérences avec ce milieu. Et cette école est en train d'être vendu au privé. Alors, il faut bien se rappeler que c'est assez fréquent quand on a une grande école qui fonctionne et qui est reconnue, qui est réputée en France. Bon, bah, on la privatise petit à petit. Et c'est arrivé à plusieurs grandes écoles, comme les Gobelins, par exemple, qui est passé d'une école publique à une école semi-privée à une école privée en 10 ans. Voilà. Subtilement, doucement, subrepticement. Mais au départ, je tiens à rappeler que les Gobelins, il fallait payer des frais d'inscription comme à l'université. Donc une centaine d'euros, contre maintenant 9000 à peu près. Bon, bah, ça fait une petite différence quand même. Hein. Et ça va peut-être changer aussi la sociologie des élèves, voire ça l'a déjà changé.
C'est incroyable. Ouais. Je ne savais pas du tout.
Ah, mais il faut se pencher sur les histoires des grandes écoles françaises, c'est intéressant. Et là, c'est exactement ce qui est en train de se passer pour Louis Lumière, sauf que ça fait plus de bruit. Parce que c'est pas en 10 ans. C'est-à-dire qu'il y a les JO là, qui arrivent en 2024. Et bah, on a besoin de place, hein, parce que les JO, c'est important. Donc on va quand même virer tout le monde pour pouvoir faire des belles épreuves de sport. Alors qu'on a déjà des stades, mais c'est pas grave. On va en construire d'autres, on va faire d'autres installations, c'est mieux. On va construire des écoquartiers, notamment dans des jardins ouvriers, d'Aubervilliers, je crois.
Exactement.
C'est ça. Petit moment d'autopromo pour aller voir ton court-métrage Biodiversité.
Exact.
Et effectivement, cette école, donc Louis Lumière, va être. Moi j'appellerais, je dirais ça démantelée, mais d'autres diraient déplacée, puisque les locaux vont être réquisitionnés, les locaux qui sont en fait privés, c'est-à-dire que c'est l'État qui a un bail auprès d'une entreprise privée très chère pour loger tous ces étudiants qui doivent disposer d'énormément d'espace puisqu'ils ont un matériel, le cinéma notamment, tout ce qui est projecteur, matériel, confection de salles, etc. Donc confection de décors, ils ont évidemment besoin de beaucoup de place et tout ce matériel-là est entreposé pour l'instant dans la Cité du cinéma qui se trouve en Seine-Saint-Denis, dans le nord de Paris. Et ça va être réquisitionné donc pour les JO, pour en faire je ne sais quoi. Donc les élèves et leur matériel vont être répartis dans deux espaces déjà. Donc on va scinder l'école en deux. Très bien, c'est une très bonne idée. D'autres filières vont être créées par la même occasion, des filières courtes et payantes, contrairement là aux filières longues, puisque ce sont des masters gratuites. Bon, il y a quand même les frais de scolarité, mais qui sont minimes quand même en France, on a encore cette possibilité. Et évidemment, ça a suscité la contestation vive des élèves et des professeurs qui se sont mobilisés et qui ont même créé une pétition pour pouvoir défendre leur école. Et c'est rare dans le milieu quand même de l'art d'avoir des gens qui se bougent. Donc vraiment, c'est qu'ils devaient être poussés à bout. Et le plus savoureux, le plus croustillant, et je ne peux m'empêcher de vous raconter l'anecdote, c'est que leur directeur a publié une lettre de contre-information, un droit de réponse à leur pétition, en criant au scandale sur une réappropriation d'un impératif qui a été imposé à l'établissement, donc ce déplacement. De l'école qui est due au JO et qui est absolument non discutable et pas du fait de la direction et qui n'avait absolument pas l'intention de créer des filières payantes, juste de créer des filières professionnalisantes en 2 ans qui devront peut-être être financées par les étudiants. Donc ce sont des filières payantes. Enfin, c'est ça la définition d'une filière payante, oui, c'est une filière
ça, on a tout l'air, oui,
qui est payée par l'étudiant. Donc bref, du coup, lisez cette lettre de réponse parce qu'elle est très drôle et moi j'ai beaucoup ri. Voilà, donc c'était un petit peu l'agenda des luttes.
Ça fait beaucoup.
Oui, c'est vrai que finalement il y a pas mal de choses qui se passent.
Oui.
En plus, on n'a même pas parlé de nous, mais quand même, trouver mon master. Ah. Nous, on est toujours mobilisés hein, contre ça et ça passera pas. Donc, c'était pour vous dire que le secteur de l'éducation a pas mal de revendications, de la primaire finalement au master. Donc, on sera là le 7 mars, il me semble, le 8, et même le 9, puisque les organisations de jeunesse appellent, évidemment, à poursuivre le mouvement le 9.
Nous avons la matière radiophonique pour un moment.
Ah oui, vous êtes pas prêts de voir notre émission se terminer. Je crois que on aura encore pas mal de choses à discuter et à débattre ensemble.
Mais ce que je retiens du coup de ta chronique sur les mouvements étudiants, c'est vraiment il y a tout qui est mis en place pour un peu privatiser l'éducation et nous prêter un peu. En plus, je pense que c'est certaines classes qui seront touchées par ces fermetures d'école ou par ces privatisations, pour priver certaines populations à avoir accès à une éducation ou à une élévation intellectuelle. Quoi de mieux pour pouvoir bien manipuler des étudiants ou des générations futures quand ils seront privés d'une bonne éducation et d'une bonne formation, quoi. C'est tout est préparé pour.
Bah, en fait, c'est tout simplement.
Qu'on soit à la botte du capitalisme, quoi.
Qu'on soit à la botte, et puis surtout que ceux qui pourront s'émanciper en faisant éventuellement des études artistiques qui les sortent d'un système marchand, puisque quand on fait. Même si le cinéma est une industrie, mais. Elle est une industrie qui produit de l'imaginaire collectif, qui produit de la pensée, qui produit de la culture. Donc c'est quand même mal vu, quoi, pour tout ça, par le capital. Et ceux qui auront le droit d'accéder à ces filières-là, ce seront les personnes qui pourront mettre la main au portefeuille. Donc voilà, c'est très clairement décidé de qui va pouvoir s'émanciper intellectuellement et de qui ne va pas pouvoir se payer la chance de réfléchir et de pouvoir même rayonner culturellement, parce qu'aussi ces personnes qui font le cinéma, elles ont un impact sur l'imaginaire collectif et elles ont du coup aussi un pouvoir politique. Donc oui, c'est vrai que c'est organisé, on est tout à fait d'accord, il n'y a pas de hasard.
Ça en va de nos libertés individuelles finalement, où par exemple je suis à un point où je dois faire ces choix par rapport à tout mon master et la suite de mon parcours étudiantin.
Courage.
Merci.
Camarade.
Et finalement, j'ai l'impression que le choix, c'est pas moi qui le fais, c'est là où je serai prise. Et donc, je me projette dans quelque chose d'incertain, puisque c'est une certaine forme d'administration qui aura fait ses choix pour moi. J'aurais tout tenté pour intégrer ce que je voudrais faire, mais ça reste compliqué. Et aussi, on apprend à, du coup, s'éduquer en dehors des structures classiques. Dans mon cas d'éducation, en dehors des écoles, à cultiver comme on le fait ici par des groupes plus restreints, des volontés de s'éduquer mutuellement. Et ça remet aussi en cause notre vision de l'apprentissage et de l'école dans certains points, comme l'éducation mutuelle, c'est très intéressant, mais dans nos libertés et dans le possible parcours qu'on se serait fait mentalement n'est pas défini finalement.
Ah, mais moi, je comprends pas. J'ai parfaitement confiance dans l'algorithme de Parcoursup et de trouver mon master. Je vois pas pourquoi ça te pose problème. Hein. Vraiment, moi, j'ai toute confiance en eux. Non, mais vraiment, c'est une question qui va revenir dans les cortèges étudiants. Préparez-vous si vous voyez mon master, trouvez mon master. C'est la sélection à l'université.
Si.
Et maintenant, sur ces bonnes paroles, je pense que je peux vous proposer une petite expérience de pensée par l'inconsolable. Profitez-en.
Imagine, ça y est, c'est le haut du panier. Je pars d'une vraie place, en tête, on vient enfin de gagner la lutte des classes. C'est là que débutent les phrases telles qu'en peuvent plus et se lassent de ces trous dupes. D'état si elle les débusque, hélas, elle te parle bien sûr des masses. Si elle les débasque, elle les busque, les brutalise, mais jusqu'à ce qu'ils trépassent. Il, je parle des cossus, des basses, rate d'au-dessus dont on se passera, vu que d'au-dessus tandis que ces types prévassent. Eux font fortune du fait d'abord d'une vraie crasse, font leur thune sur le dos des corps qui certes en sur, mais cassent, pas de veine, mais cassent. L'indienne, on a jure, s'efface, et si c'est si facile de faire que tes enflures s'effacent. Il suffit en fait au fond de faire face. Et s'ils veulent tenir tête de proférer de vraies places et de les mettre dès le passage à l'acte. C'est naze à exécution que ces gars à Jacques et la plèbe les schlassent.
Alors que brûlent les voitures et les commissariats, bourgeois paient cher la facture à la cafétaria. La facture qui nous séporte désormais par l'IA. Ils vont goûter la dictature du prolétariat. On a envie de campant en tant d'envilil blabla. Pour les oligarques élites, on prépare les petites aglas. Dès qu'on voit le mari de Brigitte ou même suite Carla, on crie. toi, viens, je t'explique par là. Mettons que le ton soit monté, qu'on ait les jetons du côté d'élite et honté. Peur que nous les jetions, reste une question. Calculais-je ton, elle doit les hanter. Qui contenter pour éviter que nous y restions? Doit-on se demander chez les gens des hautes sphères qui laissent les autres faire? C'est là l'idée que nous émettons. Mais c'est au goulag que nous les mettons. Dans ce goulag, on leur en fait voir toutes les couleurs comme chez Benetton. Oula, sale temps pour les bourgeois. Leurs entourloupes nous lassent les épargner. Pourquoi? Eux nous firent beaucoup de crasse, croyant gagner le tournoi. S'octroyant tous 10 ans, Célia, je vais les garder pour moi. Ou pas, a-t-on envie d'ajouter? Depuis qu'on écoute, Almamique a lutté. Étape des foot avec Julien Coupa. N'avons-nous pas là le plaisir d'écourter le règne de la bourgeoisie à court terme après ces putains de coups bas? Alors que brûlent les voitures et les commissariats, bourgeois paient cher la facture à la cafétaria. La fracture qui nous sépare se désormais par l'IA. Ils vont goûter la dictature du prolétariat. On a envie d'enfants, t'entends fini le blabla. Pour les oligarques élites, on prépare les petites raglas. Dès qu'on voit le mari de Brigitte ou même suite Carla, on crie. Toi, viens, je t'explique par là. Et si les gilets jaunes ravagent l'Elysée, Irir et jaune, Jupiter, les qui sont révisés. Si les foules comptent éliminer les fous qu'on élisait, pour lui qui avait écrit Révolution, serait le moment de réviser. Mais comme illico, n'est rien, il fuit illico. Dit à Brigitte, chéri gigot, grain de vie dans un hélico. Douter qu'on voudrait lui faire beaucoup de trucs pas très légaux. Jouir avec ses membres découpés comme avec les légos. Tout ça a des échos positifs. Observer ses pléraux, au supplice à un écho. Trop jouissif, trop tu kiffes. Mais pas juste parce qu'on leur prend le gros du bif, mais parce que pour une fois c'est toi qui les rend productifs. Si suppliciers supplient, on fait pas l'aumône. Projet, c'est pas juste changer de chef, on ne veut pas d'autre trône. Ils n'iront pas l'hosto, ils vivront. Carlos, on ils fuiront. Je traduis pour les traders. You guys are gone. L'anglais. Alors que brûlent les voitures et les commissariats, bourgeois paient la facture à la cafétaria. La fracture qui nous sépare se désormais par l'IA. Ils vont goûter la dictature du prolétariat. On a envie d'enfants, t'entends fini le blabla. Pour les oligarques élites, on prépare les petites raglas. Dès qu'on voit le mari de Brigitte ou même suite Carla, on crie. Toi, viens, je t'explique par là. Alors que brûlent les voitures et les commissariats, bourgeois paient cher la facture à la cafétaria. La fracture qui nous sépare se désormais par l'IA. Ils vont goûter la dictature du prolétariat. On a envie d'enfants, t'entends fini le blabla. Pour les oligarques élites, on prépare les petites raglas. Dès qu'on voit le mari de Brigitte ou même suite Carla, on crie. Toi, viens, je t'explique par là.
Radio Libertaire 89.4,
la radio de la Fédération anarchiste, la voix sans Dieu ni maître.
Pour nous soutenir financièrement, on a toujours besoin de vous pour continuer d'émettre et renouveler le matos, par exemple.
Vous pouvez télécharger un bon de souscription pour soutenir votre radio sur le site de la Fédération anarchiste.
Et qui est bien sûr modulable selon vos moyens.
Ta radio, tu l'aimes?
Alors tu la soutiens.
Pour télécharger votre bon de souscription à Radio Libertaire, rendez-vous sur le site www.radio-libertaire.net.